Touche pas à mon schiste.
Paul Renard et Christophe Léon.
Thierry Gauthier. Bonjour à tous, alors nous voilà pour notre rendez-vous bimensuel avec l'association du collectif 07 et Touche pas à mon schiste bien sûr. Donc on fait un peu le point de l'actualité. Avant de parler de l'actualité qui est toujours aussi riche, on va écouter un intervenant carrément dans le collectif 07 qui est un petit peu le conseiller scientifique du collectif, Paul. Joël Jolivet. Hein.
Oui, Joël Jolivet, enfin il n'est pas le conseiller
non,
de la
un
commission.
Des conseillers.
C'est un des membres de la commission scientifique et en fait, c'est un des membres très actifs de cette commission qui est en même temps élu d'une petite commune de Sud-Ardèche, donc très impliqué.
Et vous allez écouter, il a un avis très pertinent et très intéressant sur l'aspect financier, finalement, même en tant que scientifique, il a une vue qui est très pertinente. Du coup, je l'ai enregistré lors d'une soirée sur les gaz de schiste.
On l'écoute.
On se retrouve après une manifestation dont on avait parlé à de l'émission Touche pas à mon schiste, qui se passe à Viviers, qui est sur, bien sûr, toujours les gaz de schiste, organisé par un collectif. Et on retrouve quelqu'un qu'on n'a jamais entendu encore en Radio M, c'est le conseiller scientifique du collectif 07, monsieur Joël Jolivet. Bonsoir. Alors, vous êtes intervenu en étant dans la salle, non pas sur l'estrade. Et vous avez une personne pertinente également dans votre intervention. Vous nous dites que finalement, l'endroit où ils veulent forer, alors on parle de l'Ardèche, pour l'instant et pas des autres permis, finalement c'est tellement faillé qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vous pensez que les pétroliers le savent ça?
Oui, bien sûr, ils le savent. Il n'y a pas de problème puisque les recherches sismiques ont été engagées depuis les années 50.
50, où il y a des forages anciens qu'on connaît.
Et ensuite 70, 80. Donc ils ont complémenté, bien entendu, toute leur ligne sismique. Donc bien sûr, il manque de la donnée.
Oui, c'est pour ça.
C'est pour ces profils sismiques. Il manque de la donnée, c'est pour ça que, de nouveau, les compagnies qui doivent venir exploiter, avant tout, elles vont explorer en commençant
sismique. Des camions sismiques, vibreurs, etc.
Vibreurs, qui est pour complémenter les études antérieures, c'est-à-dire qu'on va passer de la 2D, je dirais, oui, à la 3D, sur la transcription numérique.
Les techniques des géophysiques ont beaucoup changé, hein, de prospection géophysique ont beaucoup changé, et on est sur des techniques beaucoup plus avancées qu'elles étaient dans les années 50, j'imagine, sur des profils sismiques qui sont maintenant... c'est toujours de la vibration, c'est toujours d'une forme de... On travaille toujours avec des vibreurs, et on récupère les ondes des couches, c'est toujours le même principe.
C'est toujours les mêmes principes, voilà, à part qu'on améliore les sensibilités.
Alors, je pose la question, parlant toujours du permis, finalement, des Villeneuve de Berg, pourquoi ces pétroliers donc s'évertuent à vouloir venir, même pour continuer leur profil sismique, sachant que, comme vous dites dans la conférence, c'est qu'il y a tellement de failles et de creux qui finiront par perdre leur trépan et de vite casser leur arbre de forage, quoi. Pourquoi ils sont là?
Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour une certaine rentabilité. Alors, quelle rentabilité? Est-ce que c'est de la spéculation pétrolière?
On parle de bulles.
De bulles financières. Voilà. Je pense plutôt que c'est ça. Parce que effectivement, on a des régions tellement variées au niveau lithologique, mais, comme il a été dit à la conférence, extrêmement fracturée.
Fracturée.
Pourquoi? Parce qu'on est en contact entre le Massif central, la poussée des Alpes, la poussée des Pyrénées, et tout ça, et en plus, au niveau de l'écorce terrestre, on a eu des rifts, c'est-à-dire des écartements de continents.
Oui, c'est une faille continentale qui a plus de 300 millions
d'années, et qui a évolué jusqu'encore maintenant, puisqu'on a eu de la sismique dernièrement, on a eu du tremblement à Barjac.
Tout à fait.
Là-dessus, on se pose la question de la rentabilité de la chose.
Bien sûr.
Alors, la rentabilité, bon, on a trois sortes de recherche. On a la recherche du gaz de schiste, proprement dit, qui va intéresser pas mal l'Ardèche, mais aussi tout ce qui va aller au-delà, vers la vallée du Rhône et la Camargue, d'où le permis de Nîmes.
Voilà, tout à fait. Là.
Qui est une
zone très importante. Voilà.
Très importante, puisque c'est le bassin le plus important d'Europe au niveau du gaz de schiste.
C'est plutôt ça qui viserait, on va dire, et leur profil sismique leur servirait également à comprendre alors, les sous-sols de la Camargue.
Tout à fait. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, à revendre ce permis, voilà. Améliorer, enrichi. Mais pour nos régions ici, qui est compris entre la Cévenne et la vallée du Rhône, le problème c'est tellement faillé, c'est que les pétroliers, quand on discute avec des foreurs, ils te disent mais on va au casse-pipe quelque
bien
part,
sûr,
puisque surtout si on fait du vertical encore, on va pouvoir faire quelque part, quoique. Ouais. Mais si on commence
en horizontal,
voilà, quand on va arriver sur des zones de grandes failles, etc., on va tout perdre, on va paumer du matériel.
Ah, on va prendre, et puis on perdra les produits aussi, comme ça a été expliqué, tout à fait.
Tout à fait. Et pour des rentabilités de quoi ? Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Comme il a été expliqué, on va vers du 5 ans, on abandonne et on s'en va. On sait très bien que ce n'est pas du rentable, c'est du court terme.
Sachant que les pétroliers n'ont pas la responsabilité de désastre environnemental ni de pollution, puisqu'ils sont exempts de cette responsabilité d'après le code des mines, si je comprends bien. Voilà.
Voilà. Alors, c'est quelque chose de... C'est un peu les paupirus.
Oui, oui.
On part de l'État et on redescend sur des grands groupes et après c'est des petits groupes, c'est des spéculateurs qui vont revendre avec des marges et des pourcentages et puis on va prendre des actions chez des petits fourreurs, etc.
Voilà.
Et donc on va diluer l'histoire. Et c'est-à-dire que le petit fourreur, qui va partir, va laisser son chantier en disant c'est pas moi le responsable, c'est la personne à qui j'ai
et s'il y a un problème, bah, le petit aura coulé, donc il n'y aura pas de...
Voilà. Et donc on va essayer de refaire les poupées gigognes pour en arriver où ? Mais aux contribuables et aux gens du coin qui vont se retrouver avec toutes les nuisances de surface.
Polluer définitivement,
tout à fait.
Et donc, c'est vrai qu'on se pose vraiment la question de ce permis, mais c'est le cas sur d'autres régions. Finalement, on l'a vu sur l'exemple de Toréador, c'était qui a été revendu, je crois, depuis, qui avait un permis important en région parisienne, qui n'avait pas du tout l'effectif pour pouvoir forer, et qui, il y avait des relations politiques aussi.
Tout à fait.
Et voilà, donc on a compris qu'il y avait aussi des achats et des reventes. Alors, après, certains ont dit aussi que les permis ardéchois, comme ceux de Nance également, étaient des permis épouvantails aussi, étaient faits pour faire un petit peu bouger, d'une sorte de contre-feu et permettre de développer d'autres produits, comme les produits méditerranéens, comme les permis méditerranéens, dont on parle beaucoup, qui sont beaucoup plus importants et plus tranquilles peut-être à forer.
Alors, ça aussi, on peut agiter l'éventail, faire peur d'un côté pour pouvoir agir de l'autre. Mais, il faut se dire une chose, c'est que nous sommes des régions de test. Et ça, ça a été dit dès le départ, il faut le rappeler. C'est que c'est le patron de Suez qui avait dit si on passe à la Cévenne, on aura gagné. Non, on ne passe pas à la Cévenne.
On ne
passe pas les Cévenoles. Ouais. Et je vais rappeler à ce brave monsieur, 1685, c'est-à-dire l'édit de Nantes.
Voilà.
Donc, on ne passe pas comme ça en force chez les gens, des gens qui sont depuis des lustres, depuis, des siècles, des générations, sont attachés à leur terre.
Il y a un vrai déni de démocratie. Alors, ce qui était surprenant, c'est qu'au bout du compte, ces zones test sont venues des zones, finalement, qui montrent l'exemple à d'autres régions. Quand on voit, finalement, la Haute-Savoie qui commence à bouger, tout ça, c'est l'exemple ardéchois, l'exemple des Cévennes, l'exemple de Nantes également, tout ça, ça donne une sorte de contagion et ça montre l'exemple et la possibilité de se heurter et de dire non.
Tout à fait. Je pense que c'est dans la mentalité, je dirais, cévenole, ardéchoise, gardoise, mais ce peuple qui a toujours été mené à la dure. Et effectivement, on a montré un exemple. On a dit non, on ne se soumet pas. Et effectivement, on est suivi à l'heure actuelle, et j'en suis très heureux, par beaucoup de régions qui commencent à prendre conscience de leur valeur, de leur richesse, de leur territoire. Et effectivement, comme il a été dit, on aurait dû y penser depuis très longtemps, depuis les premiers chocs pétroliers en 1974.
Bien sûr.
On aurait dû déjà réfléchir à ces transitions énergétiques.
Et de ne pas déléguer nos pouvoirs énergétiques finalement à d'autres. Quoi. C'est un peu ça.
Tout à fait. Mais ça, c'est toute une histoire politique
française
où on a délégué nos énergies vers des organismes privés qui, à mon sens, auraient dû rester des
publics,
que ça soit l'énergie, que ça soit l'électricité, que ça soit l'eau.
L'eau, bien sûr, on revient à l'eau. Qui est un grand sujet finalement.
Voilà, qui est un grand sujet, qui est un sujet commun, et qui est un bien commun.
Tout à fait.
Voilà.
Et c'est celui qu'on veut défendre parce que, entre autres un des sujets qu'on veut défendre par cette lutte contre les gaz de schiste et qu'il va falloir maintenant mener sur le terrain, semble-t-il.
Ah, il faut la mener sur le terrain parce qu'il faut se dire une chose aussi. Moi, je suis élu dans ma commune, mais il faut se dire que tous les élus sont contre, à part quelques-uns, mais ça, ils sont respectés pour X raisons. Mais l'ensemble, quand vous voyez le conseil régional, vous voyez le conseil régional Languedoc-Roussillon, quand vous voyez les positions des conseillers généraux, quand vous voyez la position des maires et de beaucoup de sénateurs, de députés, ils sont entièrement contre. Or, c'est des gens qui sont élus, un député, par exemple,
de façon directe,
un conseil régional, etc., de façon directe, par le peuple.
Souvent, scrutin proportionnel.
Proportionnel, voilà. et par un vote démocratique.
Tout à fait.
Voilà. Donc, il faut respecter cette ensemble-là. C'est de la légitimité. Et là, je pense qu'il faut à nouveau reprendre notre pouvoir.
Tout à fait.
Voilà, tout à fait normalement. Et comme on dit, je veux dire, on a vécu une histoire, on vit une histoire formidable.
Tout à fait.
Ce sont tous ces collectifs citoyens. Cette transversalité.
Exactement.
C'est-à-dire que quand
vous... ça dans un autre sens. Finalement.
Tout à fait.
Voilà.
Quand vous arrivez sur une réunion de nos collectifs, tout le monde est accepté, que ce soit les syndicats, que ce soit les politiques, les associations. Mais tout le monde pose sa bannière à l'entrée.
Exactement. Voilà.
Et la reprend à la sortie.
Tout à fait.
Maintenant, au milieu, c'est les citoyens. C'est que des citoyens,
voilà,
qui discutent,
voilà,
et qui prennent leurs décisions et leur orientation. Après que les politiques, etc., fassent remonter à leur tête de parti,
tout à fait
leur
rôle aussi. Voilà.
Maintenant, ce n'est plus ce jeu qu'il y avait, c'est-à-dire que ça venait du haut vers le bas.
Voilà,
maintenant, ça vient sur une transversalité et ça remonte sur le haut. C'est ce qui est très important, de reprendre, que les citoyens reprennent leur position.
C'est une nouvelle, finalement, démocratie, une nouvelle façon de prendre en main aussi son destin, de prendre en main sa vie, parce que les gens ont été assez passifs, finalement, à part peut-être tous les 5 ans, venir voter, tout ça, parce que c'est un petit peu ça, les élections. Les gens prennent le rendez-vous de voter et de moins en moins on voit l'abstention. Et donc c'est vrai que c'est une façon de s'accaparer la démocratie, parce que quand même la démocratie, elle n'existe pas que tous les 5 ans, elle se vit tous les jours.
Tous les jours, tout à fait.
Très bien.
Tout à fait, c'est ça qui est le plus important. Et que je pense qu'on redécouvre quelque part, parce que les Grecs l'avaient déjà vu.
Mais il faut des combats, finalement.
Il faut des combats comme ça.
Dangereux pour arriver à.
Pour arriver à de nouveau reprendre ce droit de parole et ce droit de décision, ce qui est très important.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà, c'était une interview de Joël Jolivet qui était fait la semaine dernière, qui a été fait, je crois, le 21 mars à Vigier. Voilà, c'est intéressant. Donc, on a une voix du collectif. Alors, on parle des problèmes, effectivement, qu'on a déjà évoqués sur le lien de la spéculation. Donc, c'est intéressant d'avoir cet avis-là. On a un ordre du jour qui est chargé. Donc, on va parler tout d'abord, on va revenir quelques minutes sur le fameux FAME de Marseille. On a parlé du forum et du contre-forum sur l'eau. Il y avait un atelier eau et extractivisme.
C'est
génial, ça.
C'est ça.
Voilà. Donc, Paul, un petit mot pour donner les différentes conclusions de cet atelier.
Oui, mais avant de donner les conclusions, on peut juste dire deux mots sur le constat qui a mené à la création de cet atelier, quoi. C'est qu'on s'est dit que face à la mondialisation, face à la coordination des actions des multinationales et des organismes financiers, il fallait à tout prix une coordination internationale de nos mobilisations, quoi. Pour mutualiser notre expertise et pour aider les pays qui sont très démunis, quoi.
Oui, et pas repousser simplement les pétroliers ailleurs, quoi.
Voilà, c'est pas les repousser de chez nous pour qu'ils aillent ailleurs. Et comme on sait que face aux intérêts privés, en fait, le changement, il viendra des citoyens, de la population, des mouvements de masse, l'intérêt était de mutualiser vraiment tous nos efforts. Et en fait, ça a été un grand succès parce qu'il y avait, je vais vous dire en deux mots, quoi, il y avait des Allemands, des Argentins, des Autrichiens, des Bulgares, des Canadiens, des Espagnols, des Français évidemment, il y avait des gens qui venaient du Guatemala, de l'Italie, de l'Irlande, du Mexique, du Pérou, de la Pologne, du Vietnam.
Ah oui.
Donc il y avait vraiment des représentants de nombreux pays. On a pu...
Il y a peut-être plus de gens de différents pays que dans le forum lui-même officiel, parce que là c'était un contre-forum. Ouais,
le forum officiel, il y avait les 3-4 grands groupes internationaux,
voilà,
qui se partagent l'eau dans le monde, et c'est et qui sont un peu auto-congratulés, ça s'est un peu arrêté à ça. Donc en fait, on a, je vais pas vous faire le détail du compte-rendu de tous ces pays, mais en fait, c'était vraiment le but, c'est de renforcer la coordination internationale.
Sur l'atelier lui-même, là, sur l'atelier lui-même.
Donc le résultat, c'est vraiment qu'on s'en rend pas trop compte vu d'ici, on n'était pas très au courant, mais qu'il y a vraiment des luttes dans tous les pays. Il y a vraiment des luttes importantes. Il y a des pays comme la Bulgarie où les gens ont vraiment résisté et où ils ont réussi à changer la loi, un peu comme en France, quoi, à faire ébranler l'État. Il y a des pays comme la Pologne où vraiment les forages ont vraiment commencé, où il y a énormément de forages et où les pétroliers ont pris vraiment un gros ascendant sur les politiques, mais où il y a quand même une très très grosse mobilisation de plus en plus forte. Donc ça a été vraiment très intéressant. Et en fait, on a préparé quand même une journée qui aura lieu le 9 mai à un forum européen à Bruxelles, en fait, avec l'ensemble donc des représentants.
Qui sera la suite finalement de ce forum alternatif, sera un peu la suite des ateliers.
Qui sera la suite des ateliers.
Tout à fait. La continuité.
Par contre, là, qui concerneront vraiment essentiellement gaz de schiste. Là, pour l'eau, il y avait aussi des gens qui étaient là aussi pour l'agriculture, pour d'autres choses, quoi.
Alors pour clore ce fonds alternatif sur l'eau, ce mouvement alternatif sur l'eau qui avait lieu parallèlement à la manifestation officielle, il y a eu une grande manifestation qui s'est faite donc à Marseille. Christophe,
oui, exactement, Thierry. Alors en fait, bon, vous l'imaginez, le cortège était très coloré, puisque avec toutes les nationalités représentées, on avait aussi les costumes du pays.
Ah oui, bien sûr.
Un cortège qui s'est
vivant,
étalé.
Quoi, voilà.
Oui, c'était très très vivant, c'était très joyeux, un beau temps. Oui. Un beau temps inespéré. Et donc un cortège qui s'est étalé sur plusieurs kilomètres depuis le palais de Longchamp, donc la descente de la Canebière jusqu'au Vieux-Port. Et là, donc, toutes les délégations internationales, bien sûr, étaient là.
Ce qui a permis d'avoir des images, d'ailleurs, à la télé, parce que finalement, j'ai vu des images du cortège. Il y avait plus d'images, finalement, pour la télé.
C'était impressionnant, c'était même inespéré, 5000 personnes. Un cortège qui était observé par les habitants tout au long du défilé.
Du parcours, tout à fait.
Voilà, vraiment quelque chose d'encourageant et un bon départ, je crois, pour quelque chose, pour une organisation internationale par rapport à ce problème, cette problématique de l'eau qui est mondiale.
Et qui est au cœur vraiment du problème des gaz de schiste.
Hein. Exactement.
Voilà. On va revenir à une actualité brûlante, c'est le cas de le dire, qui est bientôt explosive. C'est celle des fuites de gaz, la grande fuite de gaz, la plateforme de forage Total en mer du Nord. On la compare finalement à la troisième catastrophe, après, non pas Fukushima, mais après AZF et Erika.
Oui, puis ça fait un peu penser à Deepwater Horizon, quoi, la plateforme qui avait explosé dans le golfe du Mexique.
Ouais, c'est ça.
Là, en plus, c'est entre guillemets assez drôle, quoi, parce que depuis plusieurs mois, Total se fait forte communiquer sur la sécurité en communiquant sur leur savoir-faire pour conserver les permis de recherche qu'ils ont et pour porter le recours contre le permis de Montélimar. Et donc, ils communiquent vraiment sur la sécurité. Non, nous, on sait faire. Les Américains savent pas faire, mais nous, en Europe, on va forer bien. Donc, cet accident, il tombe assez mal pour leur communication.
En plus, ils sont sur du forage profond. 5 km, ils sont sur des pressions de 1100 bars pratiquement,
voilà,
ils
faisaient
une tonne sur un ongle,
sur un ongle, ça va faire mal. Alors Total estime aujourd'hui que les risques sont minimes pour l'environnement, mais en fait on a par exemple une émission de la BBC Scotland, BBC Écosse, qui dit qu'on aperçoit quand même un nuage de 11 km depuis les côtes d'Écosse. Et ce nuage, c'est du méthane. Le méthane, c'est 20 fois plus grave
ça fait 20 molécules de CO2.
Voilà. Donc, et on pense que s'ils ont évacué la plateforme, si Shell a évacué une plateforme
voisine qui est à 600 km,
ils ont fermé l'espace aérien, fermé l'espace de navigation, c'est quand même qu'il y a de gros dangers.
Et quand on lit les échos, on voit que cette plateforme produit du gaz et du pétrole.
Voilà,
et donc, il y a du pétrole qui est séparé, et donc il y a une sorte d'émulsion qui n'est pas un gaz pur, et donc il y a déjà sur la mer des dépôts de...
Il y a sur la mer des dépôts d'hydrocarbures. Et il y a dans l'air du gaz qui s'échappe, quoi. Donc ça paraît assez dangereux, surtout quand on sait que Total dit non, il n'y a pas de problème, on sait comment on va faire, on a deux solutions, allons soit faire un puits de secours, mais ça va nous prendre 6 mois.
6 mois, voilà.
sachant qu'en 2 jours, il y a 23 tonnes de gaz qui sont échappées. Donc, au bout de 6 mois, on ne sait pas ce que ça va faire.
Ce gaz a l'air de rester autour et donc, c'est une bombe.
Parce que, oui, ce que dit la météo, c'est que pendant 5 jours, il y a un vent qui est à peu près favorable. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une torchère qui est toujours allumée, qu'ils ont oublié d'éteindre en partant.
Ah oui, qui est toujours allumée.
C'est ce que dit l'AFP. Il y a une torchère qui est toujours allumée. Coup de bol, le vent pour l'instant emmène les gaz à l'opposé de la torchère.
Non, mais il y a un risque énorme, quoi.
La météo dit que pendant 5 jours, on va rester dans ce genre de vent.
La configuration.
Et que par contre, si ça tourne, ça peut faire un beau feu d'artifice, quoi.
Alors l'extension de ce problème qui est très grave, hein, qui va nous poursuivre, on en dit pour un petit moment. Hein, on se rappelle de l'affaire effectivement de la baie du Mexique. C'est celle des forages profonds que les pétroliers avaient envisagé dans le golfe du Lion.
Voilà,
c'est ça. Et on retombe sur des forages profonds, haute pression, on retombe sur les mêmes caractéristiques. Finalement.
Voilà, on retombe sur les mêmes caractéristiques.
Pas que pour des gaz.
Pas que pour des gaz, et on nous dit qu'il n'y a aucun danger. Et c'est donc la raison, en fait, de la manifestation qui est prévue donc pour le 8 avril, en fait, un rassemblement terrestre et marin.
Qui tombe vraiment le Trafalgar du schiste, qui est très...
Le Trafalgar du gaz de schiste, à la Seine-sur-Mer, donc...
Christophe peut nous en parler de cette manifestation.
Oui, volontiers, oui. Donc, les collectifs du Var, là, qui sont maintenant au nombre de 53, se sont organisés pour nous préparer une très grosse manifestation en mer. On y retrouvera, c'est évident, les différents collectifs locaux qui étaient déjà présents aux femmes, pas très loin.
Tout à fait.
D'autres collectifs vont se joindre. C'est une très très grosse manifestation maritime avec des bateaux qui vont venir de toute la côte, de Corse aussi. Ça va être une très...
On aura des pêcheurs, on aura des plaisanciers, on aura tous les gens concernés par la mer, quoi.
Exactement, exactement. Tous les métiers de la côte sont concernés de toute façon par ce problème. Et donc, ils seront présents. On a 3 collectifs qui sont principalement occupés de cette organisation pour la manifestation en mer. Et de nombreux autres collectifs du littoral vont organiser plein d'autres interventions sur terre.
Sur terre. Donc, on fera un point après le 8 avril, hein, puisqu'on aura des émissions qui permettent de relier ça. On pourrait revenir également à la réunion de la coordination nationale le 7 avril qui est dans le Var à Oups, hein, qui va être à côté finalement aussi.
Oui, c'est donc on profite de cette manifestation la veille, on va faire une réunion de la coordination nationale. On essaie un peu de faire des économies d'essence.
Ça nous fera qu'un seul voyage,
c'est un bon exemple à donner. Donc cette coordination nationale qui d'habitude se déroule sur un week-end sur 2 jours, là sera un peu plus courte, donc sera que le samedi. Donc on a prévu en fait les 2 principales interventions, c'est un atelier international, c'est-à-dire pour préparer la réunion du 9 mai à Bruxelles.
Voilà, parce qu'on l'a dit pour la suite
et des réunions. Et un atelier vigilance, information, action, qui va être animé par Christophe.
Et on reviendra,
il va nous en dire 2 mots. Voilà.
On reviendra sur ce VIA aussi, parce que c'est un point important. Mais je voudrais qu'on avance un peu, parce qu'on a à parler de ce fameux jeudi noir, parce que les choses avancent beaucoup, finalement. On a l'impression que tout est calme, mais les choses avancent. Juste pour finir, Christophe, le permis de Beaumont-Lomagne, un Pyrénées, il y a également une manifestation à Toulouse, ce samedi 31 mars, c'est ce samedi-là qui vient.
Oui, exactement. Donc, on a là-bas un permis énorme qui couvre 10 405 km² sur 8 départements.
Ah oui, c'est un des plus grands permis. Moi,
c'est l'un des plus grands permis de France, qui est détenu par BNK France, le même foreur qui détient le permis de Montfalcon.
D'accord.
Dans notre région. Voilà. Donc cet appel à manifestation anti-gaz de schiste est appelé par le collectif qui est proche de Toulouse. C'est le samedi 31 mars 2012 de 15h à 18h. Le rendez-vous est au Monument aux Morts, c'est-à-dire à l'Arc de Triomphe.
D'accord. Bon, c'était Toulouse, va nous donner d'autres images plus joyeuses. On va parler de ce fameux jeudi noir du 22 mars, hein, qui était le lendemain d'une réunion qu'il y a eu à Viviers, hein, avec la signature d'un décret, finalement, relatif à la Commission nationale d'orientation et de suivi d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire, finalement, que les forages à titre de recherche sont autorisés.
Alors, pas encore tout à fait, quoi. En fait, pas à titre de recherche, on dit à titre de recherche scientifique.
Scientifique, hein, quand même, scientifique. Voilà.
Mais c'est quand même, il y a des aberrations, quoi. Alors que le gouvernement se targue d'avoir été le premier au monde à interdire la fracturation hydraulique, alors que le ministère de l'Environnement nous dit que juge la fracturation hydraulique mal maîtrisée, ils mettent en place donc cette commission d'orientation qui va évaluer des risques qu'on connaît déjà, parce qu'il y a des tas d'études scientifiques qui prouvent que cette méthode est dangereuse.
Soyons clairs, c'est un décret qui suit la loi, c'est un décret d'application.
Alors, c'est un décret d'application qui suit la loi. Alors, ce décret d'application, il met en place la commission et donc il met en place les membres. Et en fait, il donne...
Oui, alors les sièges, les membres, c'est qui, voilà.
Il donne 5 représentants de l'État, 3 représentants d'associations agréées pour l'environnement.
C'est quoi ça, les...
Être Greenpeace, ça peut être...
Ça peut être Collectif 07 ?
C'est pas Collectif 07 parce qu'il faut avoir été reconnu d'utilité publique et avoir un certain nombre d'années de présence et d'action, etc. C'est un peu compliqué. Et ensuite, par contre, ce qu'il y a, 3 représentants des entreprises gazières et pétrolières et 3 représentants du personnel de ces industries. Donc ça fait 6 pétroliers
contre 3,
qui sont présents. Contre
plus
3.
L'État.
Plus 3 scientifiques qui vont être désignés par le gouvernement. Donc je pense pas qu'ils vont les choisir dans les scientifiques du collectif.
Donc
07.
Vous dites finalement c'est pas une représentation très démocratique du débat sur les gaz de schiste actuels.
Voilà. Mais en même temps, on revendique pas non plus de place dans cette commission parce que pour nous cette commission on n'en veut pas quoi.
Oui.
Elle doit pas avoir lieu.
Oui.
Elle a pas de raison d'être. Elle a pas. On veut pas d'une commission qui évalue les risques.
Non.
On veut plus de fracturation hydraulique. Point.
Oui d'ailleurs c'est ce petit cette fêlure dans la loi finalement qui fait que on rentre là, on met une commission, puis on va juger finalement permis par permis. Voilà. Autre point également, ce fameux jeudi que vous appelez jeudi noir, c'est la remise du rapport de la commission interministérielle sur les gaz et huiles de schiste. C'est un rapport qui avait été commandé par le Premier ministre, ça ?
Non. C'est un rapport qui avait été commandé par le gouvernement, oui.
D'accord.
Et donc, ce même jour, donc à la sortie du décret nommant la commission, coïncidence assez surprenante,
oui.
En fait, la conclusion de cette commission interministérielle nous a été remise. Alors, ce rapport, il préconise donc le lancement d'un programme de recherche scientifique, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cadre national ou européen sur les techniques de fracturation hydraulique et leur impact environnementaux. Donc, c'est vraiment, ce rapport ouvre carrément la porte à la fracturation hydraulique quand on sait qu'une entreprise qui a un permis de recherche, elle a gagné, elle a mis un pied dedans, elle a fait un premier trou, elle va pas lâcher, quoi.
Donc finalement, ça rejoint un petit peu là. On a parlé aussi des demandes auprès des candidats. Les candidats doivent se positionner. Finalement, avec tous ces éléments, l'UMP, donc qui est majoritaire de gouvernement jusqu'à présent, se positionne finalement pour les gaz de schiste.
Voilà, l'UMP, sans nous avoir remis sa réponse, on peut considérer que sa réponse, elle l'a fait ce jeudi, quoi.
Christophe, on a des nouvelles des candidats à la présidentielle sur leur positionnement par rapport au gaz de schiste. Il y a Mélenchon qui a bougé. Un des premiers, je crois.
Mélenchon a été le premier. Ensuite, on a eu une réponse d'Eva Joly. Et puis, on a aussi la réponse de Nathalie Arthaud et M. Dupont-Aignan.
Donc, c'est des réponses nettes, j'imagine. Non ou pas ? Non.
Pardon ?
C'est des réponses qui sont claires, qui sont nettes ?
Les réponses sont, en fait, plus variées qu'on aurait pu s'y attendre.
D'accord.
Voilà. Donc, on va en faire une analyse.
Tout à fait.
On en attend d'autres.
Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a... Enfin, on dira que c'est des petits candidats, quoi. C'est des candidats qui montent, quand même.
Oui. On espère avoir des réponses de candidats plus importants aussi. Et donc, on va organiser pour donner le résultat de notre analyse une conférence de presse sur Lyon à la date du
13 avril.
D'accord.
C'est-à-dire 10 jours avant l'élection.
Ah oui.
On va donc organiser avec l'ensemble des collectifs Rhône-Alpes, on va faire une conférence de presse commune à Lyon pour annoncer les résultats des réponses que nous avons obtenues et faire une analyse de ces résultats.
Peut-être une piqûre de rappel est importante parce que bien, on découvre que les sujets qui concernent les Français comme l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat sont des sujets qui ne sont pas dans la campagne, comme les gaz de schiste finalement.
Ouais.
Alors finalement, il y a pas mal de gens qui sont concernés par ces sujets.
Voilà. Mais on va le rappeler.
Voilà. Un dernier mot de conclusion.
Un mot de conclusion, on est toujours là, on est toujours mobilisés.
Et toujours très organisé.
Voilà, et très organisé, de plus en plus organisé. On les attend.
Merci Christophe, merci Paul.
Merci Thierry.
À la semaine prochaine.